Bon, alors on va commencer cette rencontre avec Cédric Villani. J'imagine qu'on ne présente pas, vu l'assemblée qui est devant moi, je pense qu'on ne présente plus Cédric Villani, mais quand même je vais le faire parce qu'on ne sait jamais. Il y en a peut-être 18, tiens, qui sait, il y a du monde, ça a l'air bien. Donc je vais rester pour voir. Donc Cédric Villani est un mathématicien d'abord, donc pas un auteur de science-fiction, c'est un gars sérieux. Il est directeur de
Ça
l'Institut
n'est
Henri
parfait.
Poincaré, qui est un institut de mathématiques à Paris, dans le soit, c'est un 5e arrondissement, je crois, près de l'école, 5e arrondissement. Et il est professeur aussi à l'université Claude Bernard à Lyon. Et s'il est si connu, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il a un look qu'on ne rate pas. Il a remis la lavalière au goût du jour et il porte une araignée. Donc tout le monde va avoir une lavalière. Les garçons vont avoir des lavalières maintenant. C'est un mathématicien qui va donner la mode, ça c'est rare. Et puis, il a eu, et c'est ça le point le plus important, il a reçu la médaille Fields en 2010. La médaille Fields qu'on nomme souvent prix Nobel des mathématiques. En fait, la médaille Fields, c'est la médaille Fields, c'est-à-dire la plus haute récompense qu'un mathématicien vivant et de moins de 40 ans, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, vivant et de moins de 40 ans peut avoir. Donc ça donne tout de suite le niveau du gars. À moins de 40 ans, il a fait un truc où l'Assemblée mondiale des mathématiciens a voté majoritairement pour lui dire, lui, c'est bien. Donc on va pas être là pour lui dire lui c'est pas bien évidemment aujourd'hui et on va essayer de comprendre un peu comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait et puis après tout on est aussi dans un festival de science-fiction donc on va voir si finalement on ne peut pas trouver un petit lien, on verra ça à la fin entre ce qu'a fait Cédric et la science-fiction. Alors d'abord la première question que j'ai envie de te poser Cédric mais c'est une question probablement banale, enfin qui est banale mais que peut-être beaucoup se posent, parmi les plus jeunes peut-être, c'est comment tu en es arrivé à faire de la mathématique. Je sais que ça a un sens important pour toi. Comment es-tu arrivé à faire de la mathématique?
Merci Roland pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Première question, il me demande comment j'ai trouvé mon métier. C'est pas au grand, comment on va dire, à la grande déception de beaucoup des gens qui m'interviewent sur ce thème. Il n'y a aucune histoire particulière. Il n'y a pas eu un truc où un jour je me suis dit, ah, une illumination. Un matin, je me suis réveillé en disant, je veux devenir mathématicien. Ou un jour, j'en ai rencontré un, je me suis dit, je veux faire comme lui. C'est venu d'une manière assez progressive et sans qu'il y ait eu vraiment de réflexion à ce sujet. Quand j'étais gamin, j'aimais bien faire des exercices de mathématiques. J'aimais bien lire des histoires. J'imaginais même pas à l'époque que ce soit vraiment un métier envisageable. Plus tard, quand après mon baccalauréat, je me suis dit que j'allais continuer dans les sciences, et puis je me débrouillais bien en mathématiques. J'ai présenté le concours de l'École normale supérieure, je l'ai réussi, et puis je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Ben, on a continué. Quand on est jeune, la seule règle, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de continuer. La seule crime étant de ne pas travailler pour faire ce qu'on a envie de réaliser. Donc, allons-y pour faire de la mathématique. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions à peu près aux alentours de 20 ans. Et à la même époque, j'ai résolu que j'allais trouver un style vestimentaire particulier et que j'allais trouver aussi un créneau professionnel qui me convenait bien. Et donc, je suis devenu chercheur. Et l'idée de faire carrière dans la recherche, ça m'est arrivé seulement après la soutenance de ma thèse, donc je devais avoir quelque chose comme 25 ans. Donc il n'y a pas eu d'événement particulier, et au fur et à mesure, on en arrive progressivement à se retrouver dans la voie. Et puis, comme toujours, quand vous interrogez les scientifiques, ils peuvent toujours vous citer parmi leurs influences des professeurs qui les ont marqués. Pour certains, c'est au collège, pour d'autres, c'est au lycée. Mais ça, c'est toujours, toujours.
Est-ce qu'il y a des mathématiciens aussi qui vous ont inspiré, qui vous ont marqué? Alors peut-être pas au début, puisque apparemment, ça, c'est une sorte de continuité, une notion de mathématiques intéressante, la continuité, et une continuité finalement d'un parcours intellectuel qui démarre par un goût pour les sciences et puis qui s'affine et se précise pour les mathématiques. Mais est-ce que quand même, dans votre cheminement intellectuel, il y a bien un moment peut-être des mathématiciens pour le coup? Plutôt que des professeurs, des mathématiciens au sens des grands noms des mathématiques, peut-être Euclide ou peut-être d'autres, qui vous ont inspiré, marqué, qui ont dit ah, finalement, ce qui me plaît dans les mathématiques, c'est ce que fait un tel ou le genre de problème que résout, que traite un tel.
Réponse en plusieurs tableaux. D'abord, quand j'étais gamin, je me souviens très bien, je lisais des livres de présentation mathématiques, vulgarisation pour les enfants, où on voyait par exemple les solides platoniciens en grand avec des couleurs, où on voyait des bouliers, où on voyait des représentations en nombres complexes ou qui sait quoi, et il y avait la vie de Gauss, qui était indiqué et tout, il avait présenté sur un mode extraordinaire. Et je me souviens que effectivement, pour un gamin, c'est assez fascinant de lire ce genre d'aventure et de voir à quel point la vie d'un grand scientifique, ça peut être magique. Ça, c'est quelque chose qui laisse des traces, forcément. Alors après, en tant que dans mon travail plus précis de mathématiques, mon travail actuel, s'il y en a un que j'aime bien citer, dans lequel je me reconnais particulièrement, c'est John Nash. Pour expliquer pourquoi, là, il faudrait rentrer plus dans le style mathématique, distinguer entre les analystes et les géomètres et les probabilistes, parce que mathématicien, même si c'est une grande famille, c'est beaucoup de façons de voir les choses différentes, beaucoup de styles différents. Et vous en avez qui s'intéressent aux structures, d'autres qui s'intéressent aux détails, certains qui veulent coller à la réalité physique, certains qui veulent voir les choses en grand, et ainsi de suite. Et le style de Nash, aussi bien sa façon de prendre des problèmes et de les résoudre que le genre technique qu'il met en œuvre, c'est quelque chose qui entre beaucoup en résonance avec moi.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, vous insistez, je vous ai entendu plusieurs fois insister sur la mathématique plutôt que les mathématiques. Est-ce que, après tout, on dit la physique, la chimie, la biologie, on ne dit pas les physiques, alors qu'il y a plusieurs branches de la physique. En chimie, il y aurait aussi plusieurs branches de la chimie organique, la chimie minérale, la chimie analytique. On dit quand même les mathématiques. Est-ce que ce n'est pas lié, non pas à la diversité des thèmes traités par les mathématiciens, on va dire plus simplement, qu'à la différence des styles qu'il peut y avoir en physique? Est-ce qu'il y a des styles différents comme en mathématiques? Ou en mathématiques, est-ce que ce n'est pas quelque chose de spécifique, cette affaire de style et de façon de faire le bretteur avec le problème, finalement?
Je pense que dans n'importe quelle science, vous trouvez beaucoup de styles différents, et ce n'est pas spécifique au domaine mathématique. La raison historique pour laquelle on dit les mathématiques, sauf erreur, c'est qu'au départ, ça désignait quelque chose de plus vaste, enfin à la fois plus restreint et plus vaste que ce qu'on a en tête. Ça devait être, de mémoire, l'algèbre, la géométrie, l'astronomie et la musique. Maintenant, on ne pense plus du tout à ça comme étant les branches de quelque chose qui s'appellerait mathématiques. Mais il y a cette survivance du passé qui fait qu'on emploie encore le pluriel, qui est une exception au sein des sciences, puisqu'on dit la physique, la chimie, la biologie, et qui est une exception aussi au niveau international, puisque mathématiques en anglais, en allemand, en à peu près n'importe quelle langue, c'est singulier. Donc je vois aucune raison pour maintenir le pluriel, et c'est pour ça que un jour j'ai décidé qu'il fallait revenir au singulier, selon une tradition qui avait déjà été expérimentée dans les années 70 et après par certains. On trouve aujourd'hui dans les universités départements de mathématiques au pluriel ou départements de mathématiques au singulier. Personnellement, je recommande le singulier. Façon d'insister aussi sur le côté de la grande unité qu'il y a au sein des sciences mathématiques. Même si, évidemment, il y a beaucoup de styles différents, on ne peut pas séparer de manière abrupte, cloisonner entre telle façon de faire et telle façon de faire. En particulier, ça n'a plus de sens de penser, comme on l'a fait à une époque, mathématiques pures, mathématiques appliquées. Ce genre de distinction a vécu.
D'accord. Et alors, concernant votre style, alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, nous le faire ressentir pour les gens qui, la plupart dans cette salle, sauf un ou deux que je reconnais, sont mathématiciens, mais les autres ne le sont pas, ou peut-être en devenir pour les plus jeunes. Est-ce que, voilà, ouais. Votre style, comment on pourrait l'expliquer, le traduire en mots communs?
En mots communs, d'abord, je suis un analyste. Analyste, c'est quelqu'un qui analyse les phénomènes ou les problèmes en grand détail, qui, face à une difficulté, cherche toujours à identifier la particularité de la difficulté, le point par lequel il va falloir attaquer. Comme si vous êtes un alpiniste, vous recherchez très précisément quel est l'endroit où vous allez devoir mettre vos appuis, le point de faiblesse de la muraille. Ça, c'est un analyste. Un analyste, ça s'oppose à, par exemple, un algébriste, au contraire, typiquement, va chercher des solutions structurelles qui vont pouvoir s'adapter à beaucoup de problèmes différents. Il cherche à comprendre un ordre général. Un analyste, pour caricaturer, il veut une technique qui s'applique bien au problème et qui soit très souple, qui va pouvoir modifier facilement pour un autre problème. Un bricoleur avec des outils qu'il va concevoir, qu'il va pouvoir adapter sur mesure pour fignoler. Et puis l'analyste, enfin, certains, comme moi en tout cas, tirent leur fierté de leur façon d'utiliser des outils simples et précis pour décortiquer un problème, en mettant beaucoup de temps à analyser où est le problème, où est la difficulté. Et puis, en termes d'inspiration, les trois quarts de mes... entre deux tiers et trois quarts de mes résultats sont inspirés par la physique, directement ou indirectement. La notion d'entropie, formalisation mathématique ou physique du désordre, a été un trait d'union dans beaucoup de mes articles, y compris en son application dans des sujets où on ne l'attendait pas, comme la lien entre l'entropie et la courbure, la géométrie non euclidienne. Et en termes, je dirais, en termes du genre de problème que j'aime bien, j'aime beaucoup les problèmes qui sont simples à énoncer. Et puis, au niveau des solutions, ma grande joie, c'est quand le problème et la solution sont complètement inattendus, au sens où on va réussir typiquement à faire un lien entre un concept et un autre qui viennent de domaines extrêmement différents. Entropie et courbure, ça c'est une des choses dont je suis très fier. J'étais pas tout seul à faire ça, on était un petit groupe, mais ça venait bien ensemble et justement on voit pas le rapport au départ.
Oui. Est-ce que ça a à voir avec ce que les mathématiciens, mais pas que, mais les mathématiciens appellent la beauté en leur sens propre, et de dire que d'une certaine façon, ce qui va être intéressant en mathématiques, ce qui va être vrai, ce qui va être juste, même peut-être à la fin, qu'on va pouvoir démontrer, quitte à ce que ça soit après un long cheminement, c'est quelque chose qui va être beau en un sens particulier, que vous allez peut-être nous préciser, un sens particulier qu'ont les mathématiciens.
Alors effectivement, il y a cette notion de beauté mathématique. D'abord, quand vous discutez avec des mathématiciens, entre mathématiciens, ça revient tout le temps, ça. Ah que c'est beau, alors ça la démonstration est très très belle, et voilà, et ça c'est pas beau du tout, et ainsi de suite. Et quand on en parle à des non-mathématiciens, ils ont l'impression qu'on se fiche d'eux, ou ils comprennent pas, ils disent mais quel est le truc, qu'est-ce que vous voyez de beau là-dedans? Et c'est très dur de le faire ressentir, alors des fois on utilise des analogies pour leur faire ressentir. On leur dit, ben, vous pouvez écouter un morceau de musique, et vous aurez l'impression que quelque chose va être beau, même si c'est pas un sentiment visuel. Comment dire que quelque chose va être beau? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va être beau? C'est dur à définir, mais en mathématiques comme en musique, ça pourrait être des questions d'harmonie. L'impression que telle partie et tel ingrédient entrent bien en résonance, qui sont bien adaptés l'un à l'autre, qui viennent harmonieusement l'un vers l'autre, qui se complètent. Ou ça peut être une question de surprise, le ressenti que tel ingrédient va venir dans une démonstration de manière complètement inattendue apporter la pierre finale, de la même façon que vous pouvez avoir un changement de tempo ou un changement d'instrumentation dans un morceau qui va venir de manière inattendue apporter un élément d'épice dans votre morceau. Voilà, et alors cette notion de beauté, elle est extrêmement présente en mathématiques, à tel point que si on fait un exposé devant une audience peu généraliste, où on parle de mathématiques et qu'on insiste sur le caractère puissant de la mathématique en tant que science conçue, comme les autres sciences, pour résoudre des problèmes, et si on insiste sur la façon dont c'est extrêmement utile et dont au quotidien, chaque jour, on utilise des résultats et des expériences et des progrès réalisés par des mathématiciens, eh bien, si on insiste là-dessus, il y a toujours quelqu'un dans l'audience pour vous dire que vous n'avez pas compris que le plus important, c'est que mathématiques est quelque chose de beau et que c'est une grande œuvre artistique, esthétique, et que c'est ça qui compte. Évidemment, si vous insistez sur ce deuxième aspect, il y a toujours quelqu'un pour vous dire dans l'audience que ce qui compte, c'est que la mathématique est quelque chose d'utile et de puissant.
Alors maintenant, une question peut-être plus technique, peut-être plus difficile, parce qu'elle va nécessiter un effort de compréhension.
Avant que ça, c'est oui, l'esprit d'escalier, oui, hein, une petite remarque générale, théorie classique, hein, je dirais, vision classique de le développement de ce sentiment esthétique et de l'importance que les mathématiciens et autres scientifiques y accordent, c'est cette idée que quelque chose qui est beau va être bon, souvent. Quelque chose qui est beau et harmonieux, c'est quelque chose qui a des chances d'être utile, d'être intéressant, d'être une bonne solution et qui vous guide parmi un océan gigantesque de combinaisons. De la même façon qu'un joueur d'échecs, pour se guider parmi tout l'océan des coups possibles, peut raisonner en termes d'utilité, mais aussi en termes de style, quel qui va être le beau coup.
Et est-ce que tous les mathématiciens ont la même notion du beau? Autrement dit, est-ce que de ce qui est beau pour ou de être utile finalement ou pratique pour aboutir à leurs résultats. En ce sens qu'on pourrait imaginer que devant cet océan de possibilités, il y ait des mathématiciens qui, par leur goût, par leur esthétique propre, choisissent une voie plutôt qu'une autre, et que d'autres ne la comprennent pas, la jugeant peut-être moins belle, moins attractive, et en préférant une autre. Est-ce que ça arrive aussi ? Est-ce que c'est une notion partagée, équivalente pour tous ? Ou au contraire, il y a cette chose qu'on parlait tout à l'heure, qui sont les styles de mathématiciens, est-ce que c'est lié à leur... Alors, ce qu'ils appellent le beau eux-mêmes, comment ils le définissent ?
C'est une notion à la fois largement partagée et quand même très variable. Sur une démonstration donnée, quelque chose, quelqu'un qui va trouver quelque chose de beau, d'habitude, il y a aussi beaucoup de monde qui va trouver ça beau. Mais il y en a qui vont être complètement imperméables, même au sein mathématique, qui trouveront que tel problème est beau, tel autre est complètement sans intérêt. Ça dépend des goûts. Ça dépend des communautés, ça peut varier d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça va dépendre aussi des époques. Il y a des arguments qui paraissaient très beaux il y a 30 ans, qui ne paraissent pas du tout maintenant.
Donc les résultats restent, mais finalement, ce qui est, comme pour l'esthétique, comme pour l'art, finalement les goûts changent avec le temps, avec l'espace, mais les résultats en mathématiques, eux, restent. C'est l'avantage. Les théorèmes, une fois qu'ils sont démontrés, ils sont vrais et ils sont intangibles. C'est peut-être l'avantage des mathématiques sur l'art, c'est que l'art n'est pas définitivement beau, si j'ose dire, ou définitivement
ils sont vrais. Ils sont vrais pour toujours, effectivement. Albert Einstein avait commenté là-dessus en disant que c'était ça qui faisait qu'il y avait un respect particulier pour la mathématique au-dessus de toutes les autres sciences. C'est vrai jusqu'à un certain point, cependant. D'abord, la démonstration a presque autant, parfois plus d'importance que le résultat lui-même en mathématiques. La démonstration donne des informations, la démonstration donne un éclairage, la démonstration vous dit ce qui est important dans le résultat. Quand je parle de ça, j'aime bien faire l'analogie avec une enquête policière. En tout cas, la façon, l'intérêt que vous prenez à lire un roman policier. Même quand vous connaissez déjà le coupable, ce qui est le cas dans certains feuilletons célèbres, par exemple, même quand vous connaissez déjà le coupable, ce qui vous intéresse, c'est le raisonnement par lequel on va arriver à démasquer le coupable. C'est pareil en mathématiques. Même quand vous connaissez déjà le résultat ou quand vous en êtes certain, c'est la démonstration, c'est l'enchaînement des idées qui importe pour vous. Des fois, il est plus important que le résultat parce qu'un résultat mathématique, quand vous voulez l'appliquer au vrai monde, des fois, ça ne marche pas du tout. Parce que les ordres de grandeur ne sont pas là, parce que pour démontrer le résultat, il vous faut une liste d'hypothèses considérables, et puis à la fin, vous n'y arrivez pas. Si vous essayez d'appliquer un argument mathématique au monde biologique, ça marche rarement. En économie, ça marche très rarement. En finance, on sait bien que ça marche presque jamais. J'exagère un petit peu. Mais justement, là, il faut bien avoir conscience de la démarche. Quand vous avez un résultat de finance mathématique, vous partez avec telle et telle hypothèse. Et vous en déduisez des conclusions. Puis les hypothèses, en pratique, elles ne sont jamais vérifiées. Par exemple, on parle classiquement d'indépendance des acteurs. En économie, évidemment que les acteurs ne sont pas indépendants. On parle classiquement de fluctuations gaussiennes. On sait bien maintenant qu'en économie, les fluctuations, souvent, elles ne sont pas gaussiennes. Et ainsi de suite. Alors si vous avez seulement le résultat venant des hypothèses, ben, vous ne pouvez rien en faire. Mais si vous avez compris la démonstration, même quand vos hypothèses ne s'appliquent pas ou pas tellement, vous pouvez quand même récupérer des idées, des informations, à condition d'avoir compris le raisonnement. Le raisonnement, souvent, est plus important que le résultat lui-même. Et donc, derrière cette notion que les résultats ne changent pas, les démonstrations changent, le canon esthétique change, ce qu'on va juger comme belle démonstration peut changer, il y a quelque chose d'important. Parfois, une nouvelle démonstration va apporter un nouvel éclairage. Souvent, en mathématiques, on démontre et on redémontre et on redémontre des résultats qui sont déjà connus. Et on trouve de nouvelles preuves. Et c'est une preuve qui va être très belle parce qu'elle vient d'une autre branche. Elle est inattendue et ça peut tout changer.
De Pythagore, il y a, je ne sais plus combien de démonstrations recensées, mais il y en a un nombre incroyable. Donc c'est ça.
Théorème de Pythagore, on peut l'aborder d'un point de vue algébrique, on peut l'aborder d'un point de vue géométrique, on peut l'aborder on peut faire le lien avec la théorie des nombres, on peut le voir de tellement de façons différentes, effectivement.
Alors j'en reviens à la question que j'appelais technique tout à l'heure, un peu plus technique, mais qui à mon avis est intéressante aussi, c'est qui en vient aux résultats qui vous ont permis d'obtenir la médaille Fields. Alors, je sais bien que les expliquer, ça risque de faire... vous allez vous sentir en lévitation probablement pendant quelques secondes. Pas tous. Il y a des gens qui savent des mathématiques dans la salle. Mais je pense que c'est quand même intéressant de se frotter à ça. Même si un physicien, un prix Nobel de physique, s'appelle Richard Feynman, avait dit, quand on lui demandait, alors, monsieur Feynman, est-ce que vous pourriez nous résumer les travaux qui vous ont valu le prix Nobel? Et il répondit non, parce que si je le pouvais, ces travaux n'auraient pas mérité le prix Nobel. Alors, je ne sais pas si c'est une phrase qu'on peut appliquer à tes résultats, mais est-ce que tu peux nous donner un goût, une idée de ce qui s'est passé dans ces travaux pour que ça mérite cette très haute récompense?
Ouais. Alors d'abord, un petit commentaire, c'est que Feynman, là, il a abusé complètement de dire ça. C'était pas bien. À son époque, à sa décharge, on avait moins en tête le fait que c'est important pour un scientifique de communiquer. On avait moins en tête que c'était important. À l'époque, il n'y avait pas le même problème dramatique de vocation qu'on subit actuellement, qui est de loin le danger le plus grave qui plane sur la science des pays industrialisés, le fait que les jeunes, spontanément, n'ont plus tellement envie de faire des sciences. Et franchement, on ne comprend pas pourquoi, vu comme c'est un métier passionnant, utile et valorisant intellectuellement. Alors, Feynman, il était aussi provocateur, on sait bien. Il aimait bien d'ailleurs se moquer des mathématiciens. Et il expliquait, il y a une citation de lui qui dit que si on supprimait toutes les mathématiques de l'ensemble de la planète, il suffirait d'une semaine aux physiciens pour s'organiser et reconstruire les choses. À quoi le mathématicien Mark Katz a répondu que précisément ce sont les 7 jours de la création et qu'il s'agit de faire le monde mathématique sans lequel les physiciens ne pourraient pas vivre. Alors évidemment, le débat avait lieu. Je parle aussi de ces choses-là pour répondre à la question parce que je suis un mathématicien très clairement inspiré par la physique et on ne peut pas vraiment faire de séparation nette entre où est la mathématique, où est la physique. Régulièrement, je suis invité dans des conférences de physiciens ou avec une grande dominante de physique. Régulièrement, je présente mes travaux devant un public de physiciens. Et là aussi, il y a un travail qui va dans les deux sens, à la fois le mathématicien parlant au physicien de ce qu'il a compris en point de vue mathématique, le physicien donnant des problèmes aux mathématiciens, des choses à résoudre ou le motivant avec des questions. Là encore, la démonstration a plus d'importance que le résultat lui-même. Quels sont les ingrédients importants? Donc, pour la médaille Fields, ce sont des travaux en théorie cinétique des gaz, comme on dit, des travaux dans lesquels on s'attache à comprendre qualitativement. Hein, comprendre, ça c'est le maître mot du mathématicien, il veut comprendre, mais vraiment en profondeur, dans lesquels on s'attache à comprendre le comportement des gaz. Un gaz, on peut se le représenter comme une collection de milliards de particules, et qui s'agit de manière frénétique. Contrairement à ce qui se passe dans un solide, où les particules sont bien rangées et ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Et dans un gaz, ça s'agit de plus fort que dans un liquide. Entre parenthèses, pourquoi on passe de l'état solide à l'état liquide à l'état gazeux? C'est un problème mathématique qui n'est toujours pas compris. On l'explique dans des cours de physique, cours de chimie et tout ça, mais au-delà des ordres de grandeur mis en jeu, des mécanismes de transfert d'énergie et tout ça, il y a un cœur mathématique qui s'exerce même en l'absence de toute chimie et qui est toujours un grand mystère, même si c'est un phénomène extrêmement familier, la transition de phase. Alors, les gaz, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire dessus qu'on peut d'abord obtenir énormément d'informations sur le comportement des gaz avec cette idée que c'est fait d'énormément de particules. C'est pas forcément simple. Il faut imaginer, comme c'est conceptuellement non intuitif, l'air autour de nous, qu'on a l'impression de voir en repos, stable, stagnant, en fait est constitué d'une quantité considérable de molécules qui s'agitent dans toutes les directions. Au lieu de penser qu'on est au repos d'un côté ou au repos de l'autre, il faut s'imaginer qu'on est bombardé de particules d'un côté, bombardé de particules de l'autre, dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose qui est conceptuellement délicat. L'existence des atomes, c'est une découverte assez tardive. C'est seulement dans les années 1910-1915 que la communauté scientifique intégralement s'est rangée à ça. Vous trouvez jusqu'au début du XXe siècle des scientifiques très respectables qui disent qu'ils n'y croient pas. C'est donc une évolution assez récente. Mais cette idée qu'on pouvait avoir des informations importantes, elle date des années 1860-1870, la révolution de la physique statistique menée par James Clerk Maxwell en Angleterre et Ludwig Boltzmann en Autriche. Ils ont développé tout un ensemble de recettes physiques, mathématiques, permettant d'établir les lois des gaz vus ainsi, en particulier la fameuse équation de Boltzmann, qui décrit le comportement statistique d'un gaz évoluant de manière très chaotique. Avec un principe général, plus les particules évoluent de manière extrêmement chaotique et indépendantes les unes des autres, meilleures seront les prédictions statistiques qu'on pourra faire sur ces particules, sur ce gaz. On pourra calculer la pression qui résulte de l'influence presque simultanée de milliards de particules. On pourra évaluer la température qui mesure l'agitation, la dispersion du profil des vitesses des particules. On pourra calculer la pression et ainsi de suite. Ces équations, équations de Boltzmann, sont utilisées de nos jours en aéronautique, par exemple, pour calibrer des ailes d'avion en comprenant bien les profils des courants, de température et de pression qui s'établissent autour des ailes. C'était aussi un modèle théorique important parce que lié à la croissance spontanée du désordre dans les gaz et dans le monde qui nous entoure, la fameuse entropie, et puis lié donc à la flèche du temps, la notion d'irréversibilité, chère aux auteurs de science-fiction. Puisque précisément, si on veut permettre le voyage dans le temps et les choses comme ça, il faut trouver un moyen d'aller contre ces lois de croissance de l'entropie. Donc, on retrouve tout ça dans cette équation de Boltzmann qui a à la fois un contenu théorique et un contenu pratique extrêmement important, lié à la mécanique des fluides, mais lié aussi au mécanisme de transfert d'informations. Voilà, c'est là-dedans que j'ai fait ma thèse, c'est là-dedans que j'ai fait mes travaux. Et en particulier, j'ai étudié de manière précise quels sont mathématiquement les mécanismes d'augmentation de l'entropie en rapport avec, ça peut être les conditions aux limites, la forme du compartiment dans lequel évolue le gaz, ça peut être les conditions initiales, toutes sortes de mécanismes. Et ça, c'était un aspect des problèmes sur lesquels j'ai travaillé, cette augmentation du désordre. Et puis, au contraire, j'ai travaillé aussi sur d'autres phénomènes qui interviennent dans des systèmes où le désordre reste constant. Galaxies, typiquement, quand on regarde le mouvement des étoiles, c'est un système dans lequel il n'y a pas d'augmentation du désordre. L'entropie reste constante, l'entropie associée au désordre des étoiles dans une galaxie. Pourtant, on sait, en partie par l'observation, en partie par des simulations numériques, que spontanément, dans une galaxie qui évolue, les étoiles vont s'organiser de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y a une certaine homogénéisation, une certaine relaxation. Les astrophysiciens, qui n'ont jamais peur des concepts qu'ils ne comprennent pas, parlent de relaxation violente. Relaxation violente, c'est pour dire que même si on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, ça va s'homogénéiser plus vite que ça ne devrait, même s'il n'y a pas d'augmentation du désordre. Bon. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ça? J'ai essayé d'apporter une petite brique à l'édifice dans la compréhension d'une petite partie, une toute petite partie de cette problématique de relaxation rapide, une partie qu'on appelle l'amortissement Landau, du nom du physicien soviétique Lev Landau, qui dans les années 40 a suggéré que même dans des systèmes où le désordre reste constant, il pouvait y avoir une relaxation apparente vers un équilibre du fait de phénomènes de mélange. Et puis Landau, il travaillait sur ces problèmes dans une approximation, il ne travaillait pas sur les vraies équations, mais sur des équations simplifiées, on les appelle linéarisées. Est-ce qu'il avait raison de faire ça? La question a pu se poser pendant un bon demi-siècle, et c'est seulement il y a trois ans, avec mon collaborateur Clément Mouhot, qu'on a montré que même sur la vraie équation, ce phénomène d'amortissement Landau, il est vrai, même sur les équations de Vlasov-Poisson, les équations de base de la physique gravitationnelle, de l'astrophysique. Voilà, c'était une petite brique apportée à l'édifice. Et puis, comme ce n'est pas juste le résultat qui compte, mais la démonstration qui compte, on a aussi montré que ce phénomène de relaxation, il était associé à d'autres phénomènes connus des physiciens, mais dont on ne soupçonnait pas qu'ils avaient un lien, parce qu'ils n'ont pas vraiment de lien physique, mais ils ont un lien dans le monde mathématique. En particulier, le problème de la stabilité d'un système solaire, problème de la théorie de Kolmogorov-Arnold-Moser, on a mis au jour des liens entre ce problème de stabilité sur le très long terme et ce problème de la relaxation. Même si, du point de vue physique, c'est complètement différent, il y a une structure mathématique qui est très proche. Et puis, on a montré que c'était aussi lié à des phénomènes d'écho dans les plasmas, des phénomènes que les praticiens des plasmas connaissent bien sous le nom d'écho-plasma. Plasma, vous poussez un cri électrique dedans, et puis un deuxième cri à une fréquence différente, spontanément, il va faire une réponse à un certain moment. Et ça, c'est un phénomène de résonance qui à certains points de vue, à certains points communs mathématiques dans cette grande image avec les résonances dans les trajectoires des planètes qui constituent le principal obstacle dans la théorie de Kolmogorov-Arnold Moser. Voilà, même si là je deviens un peu plus technique et je vais m'arrêter là, vous voyez qu'il y a cette question, répondre à des questions issues de la physique, comprendre mathématiquement pourquoi ça marche, et identifier des liens éventuellement entre différentes branches de la mathématique ou différentes branches de la physique qui vont pouvoir se lier dans le monde des idées.
Une sorte de généralisation d'outils et de propriétés, de théorèmes, dans un cas particulier, les généraliser après. Les mathématiciens font souvent ça, finalement, de résoudre un problème qui est particulier, qui peut être techniquement complexe, mais en l'intégrant dans un cadre plus large, et ça a l'air a priori de rendre le problème plus compliqué, parce que c'est dans un cadre plus large. En réalité, on aboutit à des moyens de résolution peut-être plus percutants, plus performants, en plus de la,
souvent,
plus de la
généralisation. Il y a tout ce jeu, tout cet aller-retour. Alors, ce n'est pas uniquement propre à la démarche mathématique. En physique, souvent aussi, face à un problème compliqué, on cherche un problème modèle de physique théorique qui peut être beaucoup, beaucoup plus simple. Pour ceux qui connaissent le modèle d'Ising, c'est de la rigolade par rapport au vrai modèle qu'on regarde en physique statistique. Mais pourtant, c'est intéressant de regarder le petit modèle très simple, un peu abstrait, et d'en tirer des généralisations. Et dans l'aller-retour mathématique-physique, effectivement, on fait souvent ça, un problème technique particulier, on va le placer dans un cadre mathématique, chercher à généraliser, chercher à imaginer, et puis le problème, une fois généralisé, une fois rendu abstrait aussi, et pouvoir s'incarner dans beaucoup plus de modèles particuliers, concrets. Et cette démarche aussi de généralisation, elle peut être utile pour vous aider à résoudre le problème. Un problème particulier, parfois, c'est même dans la vraie vie, vous avez un problème à résoudre, il y a beaucoup trop d'informations. Et vous êtes paralysé pour trouver la solution parce que simplement vous avez beaucoup trop d'informations. Comme dans ces jeux où on vous demande de trouver la solution et puis il y a tel, tel et tel indice et puis on a mis des indices qui ne servent à rien. Souvent dans la vraie vie, dans les problèmes que vous avez à résoudre, il y a plein d'indices qui ne servent à rien. Et il faut alors essayer de ramener, réduire les choses, enlever les informations jusqu'à ce que vous vous retrouviez face au cœur logique qui constitue l'essentiel de votre problème. Et là, vous avez des outils pour résoudre, pour arriver au but. Et mathématiques et aussi, ça c'est phénoménal. Une fois que vous avez résolu un certain problème, vous pouvez le retrouver un peu partout. J'ai parlé de l'entropie. L'entropie, c'est venu au départ dans la physique des gaz. Maintenant, on le retrouve partout. On parle de l'entropie des trous noirs. On étudie l'entropie dans un cadre biologique. On sait que l'entropie, on l'a redécouvert dans la théorie du signal. Il y a des notions liées à l'entropie partout. Quand on échange des messages entre téléphone portable, ordinateur ou qui sait quoi, c'est l'une des notions les plus fondamentales dans la théorie de la communication, l'entropie. On peut analyser l'entropie dans le langage, du français ou d'une autre langue, alors que ça a été introduit dans un contexte complètement différent.
Alors, je vois que ça fait déjà 40 minutes qu'on discute ensemble, donc je vais quand même pouvoir, vu l'assemblée nombreuse, il y a seulement quelques questions qui se posent parmi vous pour soumettre à Cédric. Donc si quelqu'un, on va en prendre quelques questions, et puis après on fera peut-être une petite discussion, puis on finira. Donc on peut prendre quelques questions, bien sûr.
Est-ce que... Oui, ah, voilà. C'est bon. Vous venez de nous faire planer avec toutes ces notions. On considère souvent le mathématicien comme quelqu'un qui n'est pas rattaché au concret. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux ou trois mots de votre vie, plutôt les pieds sur terre que plutôt l'esprit dans la mathématique?
Oui, alors, effectivement, quand on s'intéresse à de la mathématique, il y a forcément des moments où on plane un peu, par design. Mais il y a plein d'autres occasions dans la vie où on plane aussi.
En faisant de la SF aussi, on plane un peu. Hein, donc, ici, alors, ça, voilà, c'est là pour ça, on est le bon endroit. Hein. Vous sentez la lévitation, là ?
On sent, il faut sentir la lévitation. Pour ce qui est de la vie au quotidien du mathématicien, ça, c'est une question, effectivement, qui se pose souvent. C'est une des raisons qui m'ont poussé à écrire un ouvrage que vous trouverez en vente dans toutes les bonnes librairies.
Pour ne pas le citer, il est trop modeste pour lire, il s'appelle Théorème vivant. Il est bien, cet ouvrage. Il y a des endroits qui vous font planer, hein. Il y en a d'autres, non. Et il est publié chez Grasset, c'est ça. Il est disponible, et je crois que tu as une séance de signature aussi tout à l'heure
à
14h.
Il est disponible.
Il sera en signature tout à l'heure.
C'est est disponible à un prix modique. Et il raconte précisément tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe au jour le jour dans la vie du mathématicien? Qu'est-ce qui lui arrive? Sa vie de famille? Alors il y a des fois où ça rentre en conflit, où il a son, il est perdu dans ses pensées, et puis il y a la vie de famille. Des fois au contraire où ça, il est extrêmement content de pouvoir discuter avec ses enfants ou faire telle ou telle sortie. Et puis il y a des fois tout simplement où l'un et l'autre se superposent harmonieusement. Il y a les échanges avec les collègues. Un mathématicien, on n'a pas forcément conscience, c'est quelqu'un qui passe son temps à discuter. Discuter entre collègues, à aller de par le vaste monde. Et je dirais même que ce sont sans doute les scientifiques qui voyagent le plus, précisément parce qu'on est dans l'échange d'idées permanent. Et puis, un mathématicien, c'est quelqu'un qui est aussi, enfin, par ses recherches, peut parler avec tout le monde. On a l'habitude de dire aussi que mathématiques, c'est particulier, c'est abstrait, c'est isolé, mais pas du tout. Mathématiques, c'est lié à toutes sortes de problèmes physiques, c'est lié à toutes sortes de problèmes d'organisation pratique quotidienne. À chaque fois que vous achetez votre billet de train, le prix du billet, il a été calculé avec des algorithmes qui font intervenir des théories mathématiques subtiles et intéressantes. Je pense en particulier à les algorithmes de programmation linéaire tels qu'on a pu les développer au milieu du XXe siècle. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est constitutif de l'identité humaine et de la culture humaine. C'est une, c'est quelque chose qui n'est pas naturel au sens où biologiquement on n'est pas mathématicien, on ne devient pas mathématicien spontanément, alors qu'on est spontanément doué de la faculté de langage, facile à apprendre. Spontanément, on est doué de la faculté politique. Hein. Les homo sapiens, comme les chimpanzés, sont très doués naturellement pour tout ce qui est analyse politique, mais on n'est pas doué spontanément pour l'analyse mathématique. Et donc, c'est mathématicien, cette façon d'agencer des arguments logiques, de les combiner, de les transmettre, c'est un savoir très précieux, utile dans toutes sortes d'activités, pas seulement pour les mathématiciens, mais qu'en quelque sorte, les mathématiciens sont parmi ceux qui veillent dessus, qui les transmettent à travers l'enseignement et ainsi de suite. Et il y a toujours un rapport particulier que la société voit avec les enseignants de mathématiques. Souvent, ils le voient comme traumatique, mais c'est un rôle fondamental. Ceux qui vont vous enseigner une école de raisonnement logique un peu rigoureux. Voilà, donc il y a je pense avoir répondu à peu près à la question.
Les mathématiciens sont des hommes et des femmes comme les autres, finalement. Enfin, ils ont pas. Ouais, y a ils pas ont de... aussi une vie normale, finalement.
Voilà, et ils lisent. Ils mangent,
ils font tout, quoi.
Et ils lisent des trucs.
De temps en temps, ils font des maths, mais bon.
Pour être dans le thème de ce festival, de temps en temps, ils lisent de la science-fiction aussi.
Est-ce que vous en avez lu, alors, vous, Cédric Filani, de la science-fiction, lu,
ouais,
apprécié?
Alors, moi, j'ai...
Alors, c'est quoi votre shortlist pour tout le monde après l'achète à la librairie?
Oui, il y en a. Alors, justement, il y en a dans... D'abord, je ne suis pas très au courant de ce qui se fait actuellement en science-fiction, mais j'ai grandi dedans. Hein. Mes parents étaient des passionnés, ma maison était remplie de bouquins de science-fiction de la grande époque, les années 60, 70, 80. J'ai grandi dans les ouvrages de... qui ça va être Frederick Brown, Ray Bradbury, Robert Sheckley, Philippe K. Dick.
Ça va, il y a pire.
Le traducteur français et spécialiste français de Philippe K. Dick était même un ami personnel de mon père. C'était vraiment, j'ai grandi dans le respect et l'admiration pour Philippe K. Dick. Il y en a il y a quelques petits clins d'œil que je mets ici et là en référence à ça. Ceux qui ont lu mon livre ont pu noter qu'il y avait une allusion à Bradbury à un moment dans un coin, sans que ce soit une référence précise. Je parle du piéton de Bradbury. Alors comme ça, ceux qui voient l'histoire à laquelle il fait référence disent « Ah ben voilà, ça nous fait une petite référence commune. » Plus advanced, sur mon blog, le post sur lequel j'annonce la sortie de mon livre, hein, je lui ai donné le titre d'une nouvelle de science-fiction que j'admirais beaucoup et qui, pour le coup, est dure à trouver. Ça va être pour les lecteurs de l'anthologie marginale, pour ceux qui recadrent de quoi il s'agissait.
C'est quoi le titre ? Le titre était lequel ?
Une naissance tant attendue.
D'accord. Alors, puisqu'on est dans la science-fiction, il y a une question. On va plein de prendre la question, et moi j'en ai une autre aussi qui est de science-fiction. Allez-y. Il y a peut-être un micro qui circule, monsieur. Attendez, on ne vous entend pas, monsieur. Il faudrait que vous puissiez. Voilà. Ah, il y a une question. Excusez-moi. Il y a une question derrière d'abord, et après
on
va vous prendre la vôtre.
Le micro a été hijacked. Voilà.
C'est ça. Oui, c'est le micro qui fixe tout.
Oui, bonjour. Je suis aussi fan de science-fiction et notamment d'Asimov, le cycle de Fondation. Et je voulais savoir s'il y avait une relation entre l'entropie et l'évolution de la société humaine. Étant donné qu'on a une tendance à une structuration de plus en plus importante des sociétés humaines depuis, en gros, le néolithique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une corrélation entre les théories des gaz, l'entropie, et une tendance à une structuration plus forte pour diminuer l'entropie de nos sociétés ?
Et en première approximation, oui, sauf que c'est le contraire. Au sens où, précisément, le mouvement que vous décrivez de structuration, c'est un mouvement précisément de diminution d'entropie qui va contre le sens de la physique des gaz. Alors, ce n'est pas juste ramené à ça. Il y a aussi des tas de phénomènes liés à l'espèce humaine pour lesquels l'entropie augmente. On peut voir l'histoire de la structuration humaine, de l'évolution depuis néolithique, comme quelque chose de plus en plus structuré. On peut aussi le voir comme quelque chose qui est de plus en plus désordonné et de plus en plus impossible à contrôler. Dépendant du point de vue dont on se place, ça sera l'un ou l'autre. Si on s'intéresse à un point de vue écologique, l'entropie apparaît certainement beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne l'était au néolithique, à une époque où l'impact humain était négligeable. Alors qu'aujourd'hui, l'impact humain, il est simplement monstrueux, hein. Comme on dit, comme j'aime bien répéter, si vous lisez les journaux, vous avez l'impression que vous êtes dans une crise économique, mais ce n'est pas vrai. On est dans une crise écologique, à côté de laquelle la crise économique, c'est de la rigolade complète. Et donc, c'est du point de vue de l'impact écologique, on est dans une période d'entropie considérable, et certainement, ça a fait qu'augmenter au cours des siècles. Point de vue de la structuration en termes de société, organisée en termes de ville, au contraire, il y a plutôt une tendance à la structuration. Point de vue biologique, si on regarde l'organisation des êtres vivants, aussi, il y a une sorte de tendance à l'organisation qu'on peut voir. Mais même le mécanisme vivant, ça va à l'encontre de la théorie des gaz. Il y a des interactions entre les êtres humains, comme par exemple la reproduction sexuée. Mais les interactions, elles ne vont pas résulter en des augmentations de l'entropie du système, puisque au contraire, on va aboutir à la création d'un nouveau système, un nouvel être humain, une nouvelle naissance tant attendue, qui va être du même niveau d'entropie, de complexité que l'être humain à la génération précédente. Il y a un phénomène de transmission d'ordre qui est assez remarquable. C'est une transmission au niveau du phénomène vivant, pas des individus eux-mêmes, parce que l'individu lui-même, il subit la loi d'augmentation de l'entropie, il devient désordonné, il meurt. Mais il y a une transmission de l'ordre qui est extraordinaire. Ça, c'est le miracle de la vie. Précisément, c'est une sorte de machine qui va à l'encontre de la croissance de l'entropie. Ça rend la vie encore plus précieuse. Ce n'est pas contradictoire avec la physique, parce que vous pouvez très bien avoir une diminution locale de l'entropie pourvu que ça augmente globalement quelque part ailleurs.
Il y avait un monsieur qui avait une question.
Bonjour, Richard Feynman, que vous avez évoqué tout à l'heure. Richard Feynman, que vous avez évoqué tout à l'heure, pointe avec beaucoup de malice... vu les difficultés qu'ils avaient eues lors des développements de l'électrodynamique quantique, que si on poussait les développements jusqu'à 137, qui est exactement l'inverse de la constante de structure fine, les choses ne marchaient plus. Voilà, ça me suggère une question, je pense que très simple. Tout le monde connaît le nombre pi, le nombre e. Pour les physiciens, la masse de l'électron, la charge de l'électron est une constante. Donc, par exemple, alpha, la constante de structure fine, qui est une constante sans dimension, quelle est la place d'une constante, en fait, dans une théorie mathématique ou physique ? Voilà.
Ouais. Tout le monde connaît pi, oui. Tout le monde connaît e, je ne suis pas sûr. Si on fait un sondage, qui connaît
sondage e ? Sondage à main levée, rapide. Un crash sondage. Qui connaît e ? Oh, bah alors.
Ouais, ils sont beaucoup.
Et qui connaît
même.
Pas eux ? Ils sont moins nombreux quand même.
Ils sont moins nombreux, mais quand même.
Il y en a qui mentent là, ils font ça pour faire monter. Non, non ?
Ah oui. Bon, disons, eux. Quand même, c'est pas mal. Qui connaît ? Alors, c'est pas mal comme.
Qui pense que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour ? Bon. On va vérifier sur les fondamentaux là, on ne rigole plus.
Ah ouais, mais ils peuvent toujours dire que c'est une question de choix de référentiel.
Oui, c'est ça, ils ont raison en plus.
Alors, donc, pour ce qui est des constantes, alors, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas E, qu'ils sachent que c'est un nombre mythique et important, un peu au même titre que pi, et qu'il intervient chaque fois qu'on a un phénomène de croissance, croissance exponentielle, tout de suite, il y a E qui est caché derrière, disons, en symbole. Alors, Le rôle
même,
des...
Excuse-moi, Cédric, tu t'interromps. Ça vaut environ 2,718 quand même. Hein, c'est pas juste eux. C'est comme pi, c'est... Combien vaut pi si il y a cette boutade? Combien vaut pi? Alors, les gars qui, en 19e siècle, aux États-Unis, ont fait voter une loi pour que pi soit égal à 3. On leur a dit non, déconnez pas, vous allez avoir des problèmes. Alors, ça peut valoir 3. Le physicien vous dira, c'est 3,15 plus ou moins 0,001 ou 0,002. Et le mathématicien répondra, ben, pi, c'est exactement égal à pi. Voilà. Donc, pour dire que eux, c'est environ 2,718. Voilà, excuse-moi,
c'est vrai. Ouais, mais c'est pas forcément plus long. Là où, on va dire, là où vous allez dire pi, c'est à peu près 3,18159, quelque chose comme ça, le mathématicien dira, c'est le rapport entre la longueur du cercle et le diamètre. Et c'est très rapidement dit. Et eux, c'est la... Alors, eux, il est un peu plus compliqué. Ce serait la somme des inverses des factoriels. Bon, c'est pas beaucoup plus long.
Ah, c'est à peine plus long. Hein.
Alors, pour revenir sur ce rôle des constantes, la question et la réponse pourrait être longue et divisée en différents thèmes. En tout cas, quand on s'intéresse à une théorie mathématique, on peut choisir de mettre dedans, dans le modèle, des constantes sans s'intéresser à leurs valeurs. Et puis on peut choisir de s'intéresser aux valeurs particulières. Et puis on peut se demander dans quelle mesure un certain résultat dépend des valeurs des constantes. Et ça, on retrouve ce genre de problématique un peu tout le temps. Par exemple, si on s'intéresse aux transitions de phase, on va regarder un mélange, un gaz avec une certaine densité de présence du gaz. On va faire varier ce paramètre, on va faire varier la constante. Il s'agit de faire varier la constante au sens où à chaque fois on regarde la propriété correspondant à un certain paramètre fixé, puis on le fait varier un peu et puis on regarde ce qui se passe. Et on verra comme ça des phénomènes intéressants, comme les transitions de phase. Si on s'intéresse à l'univers, on peut ajuster différentes constantes et puis se demander quels sont le régime des paramètres de ces constantes dans lesquelles on a possibilité de structuration de la matière en galaxie ou pas, des choses comme ça. Des constantes, on en a un paquet. Souvent, elles résument, elles jouent un rôle important, que ce soit en mathématiques ou en physique, parce qu'elles résument toute une problématique à travers un objet, un nombre emblématique, une manifestation et aussi un paramètre qu'on peut ajuster qui vous décrit un phénomène que vous jugez intéressant. Je ne vais pas répondre de manière plus précise parce qu'il faudrait entrer dans les détails. Il y a beaucoup de discussions précisément dans des contextes de science-fiction ou de cosmologie, c'est pas si éloigné l'un de l'autre, où on s'interroge sur les valeurs des différentes constantes et est-ce que ça a été mis en place précisément de la manière qu'il fallait pour que la vie se développe et ainsi de suite. Et puis évidemment, on ne peut pas tellement raisonner là-dessus parce que de toute façon, l'univers, on n'a qu'une seule expérience à disposition, on ne peut pas refaire le truc. Et puis, il y a toujours le principe anthropique qui vous tombe dessus et qui empêche tout raisonnement serein, qui dit que si ce n'était pas ajusté d'une manière que ça puisse marcher et que vous soyez là, ben, vous ne pourriez pas faire le raisonnement. Voilà. Donc, ce rôle des constantes.
Merci. Est-ce qu'il y a une question encore? Voilà, il y a un monsieur qui a une question. Peut-être, ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir à un sujet un peu plus terre-à-terre que vous avez évoqué en fait au début de votre intervention, qui est l'état de la recherche en France. Et donc, je suis moi-même chercheur en sciences sociales et j'ai été très surpris de vous entendre dire qu'en sciences dures également, quand on fait la distinction entre sciences dures et sciences molles, vous aviez énormément de mal à recruter. Et en fait, je voulais vous poser une question sur l'analyse que vous faites de cette situation et ce que vous dites à vos jeunes étudiants pour essayer de faire naître des vocations qui sont en train de se perdre. Et voilà, enfin...
Oui, non, le problème, je sais, quand on discute avec les gens des sciences sociales, des sciences humaines et autres, effectivement, ils disent la même chose. Ils disent, on a un problème de recrutement majeur. Et ils pensent que peut-être ils viennent chez nous. On leur dit, non, nous, on a un problème de recrutement majeur. Les étudiants.
Alors, hein? Il y a conservation du flux en physique. Les humains ne disparaissent pas. Donc, s'ils vont pas en sciences sociales, ils vont dans la finance.
Médecine est encore populaire. En médecine, certaines branches de la médecine, par exemple, chirurgienne, n'est plus très populaire. Les gens pensent qu'il y a plein d'ennuis, des risques légaux, d'astreintes et de choses comme ça. Anesthésiste, oulala, il y a des branches comme ça. Alors, en revanche, la dermatologie, c'est extrêmement populaire. Gynécologie, ils disent que c'est un drame, que les gens ne veulent plus faire ça, alors que c'est un métier extraordinaire. Donc il y a plein de problèmes comme ça. Et puis en mathématiques, ouais, Ils vont en finance, avec des, très vite des salaires qui défient toute compétition par rapport à ce qu'on peut offrir dans le monde universitaire, même avant d'avoir terminé leur diplôme. Et là, c'est un peu le truc est un peu terrible. L'ensemble est un peu terrible. Alors, ce qu'il faut, la question d'abord, il y a un premier constat qui est, qui peut difficilement se contester, c'est que s'il n'y a pas, sans un bon flux de gens qui vont faire des sciences, que ce soit des sciences humaines ou des sciences dures, entre guillemets, ben, ça ne va pas aller bien loin. On a besoin absolument, absolument. Les gens qui font de la finance sont bien gentils, mais si à un moment, il n'y a pas des théoriciens qui s'occupent de mettre au point les modèles, et puis s'il n'y a pas, encore plus important, des chercheurs qui s'occupent de mettre au point les expériences qui vont nourrir l'innovation sur laquelle qui permettront d'avoir les cours en bourse de telle entreprise qui grimpe, eh ben ils iront pas bien loin.
Les ordinateurs pour gérer leur business, enfin bref.
Les ordinateurs et tout ce qu'on veut, et les programmeurs pour développer les algorithmes et tout ce qu'on veut à l'avenant. Et donc on a absolument besoin de ça. Et puis ça décroît, c'est pas une particularité de la France, hein, c'est pareil partout dans les pays industrialisés. Et c'est en partie dû à des questions d'image, de valorisation, de perception du métier. Donc là où il faut agir, c'est en grande partie sur les questions de discours, d'image et d'information. Alors il faut parler de ce qui se fait en science, raconter des histoires. Autant que je peux, je raconte des histoires de telles dans mes exposés. Je parle de l'histoire liée au système solaire. D'ailleurs, tout souvent, je parle de la vie de grands mathématiciens. Je parle de telle ou telle découverte, de l'histoire de telle ou telle idée. Ça, c'est passionnant. L'histoire des idées, l'histoire des sciences, l'histoire des technologies, c'est totalement passionnant. Et puis, on parle aussi de ce qui se passe dans le métier. Alors, c'est peut-être pas le métier le mieux payé du monde, mais on fait pire, hein, on fait bien pire. Et puis, pour le coup, ce sont des métiers passionnants, les métiers scientifiques. Passionnants, dans lesquels on est vraiment utile. Il y a quelques années, il y avait le Wall Street Journal. Hein, c'est pas... particulièrement les gens qu'on attendrait qui vont soutenir la science, a priori. Mais Wall Street Journal, qui s'est mis en tête de faire un classement de tous les métiers, et dans les 10 premières places, je pense qu'il y a 8 métiers scientifiques. Quelque chose comme ça. Physicien, astronome, je ne sais plus ce que c'était, il y avait biologie, il y avait l'informaticien. Non, oui, mais mathématicien, non seulement il était là, mais il était en première place.
Voilà, c'est ça.
Il était en première place mathématicien. Ce qui est, bon, je comprends, ça se comprend évidemment. Mais au-delà de ça, les scientifiques, les métiers scientifiques, ils vont envoyer plein dans les premières places. Et c'était un classement multicritère, fondé sur l'image que les gens avaient d'eux-mêmes, sur les perspectives d'évolution, sur la liberté, sur la souplesse, sur le caractère stimulant et ainsi de suite.
Bon, on va peut-être prendre une dernière question de l'homme au chapeau, là, qui est devant. Ah, il y a un monsieur
sans chapeau.
Sans chapeau, mais ça marche aussi, alors. On prend les questions.
Ça marche ? Oui. Moi, j'avais une question pour revenir au thème des utopiales, un petit peu, qui est donc la littérature de l'imaginaire. En fait, la mathématique, dans la littérature de l'imaginaire, généralement, ça va avec l'horreur. Je pense particulièrement à Lovecraft, qui voyait dans l'abstraction les autres univers quelque chose de terrible et d'écrasant. Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, de la mathématique belle et optimiste dans la science-fiction, dans la littérature de l'imaginaire, ou est-ce que ça pourrait être une ambition personnelle pour vous plus tard, éventuellement?
Ah, là, il me faudrait une petite étude. C'est intéressant la question. Qu'est-ce qu'on va dire? Souvent, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, souvent, ce que je trouve attirant, c'est précisément quand il y a de l'horreur et des choses terribles. Hein, la nouvelle de science-fiction gaie et joyeuse, j'y crois pas trop sur son succès. Vous parlez de Lovecraft, effectivement, il y a toutes ces questions, monde parallèle. Il y a une nouvelle particulièrement à laquelle vous me faites penser de Lovecraft, où il y a cette débauche de concepts et d'inventions mathématiques associées à quelque chose d'effrayant. Mais je suis pas sûr, d'abord c'est pas si mal si au moins ça l'inspire, et ensuite je suis pas sûr que c'est la mathématique en soi qui soit associé, voilà, c'est ça que je répondrai. Je ne suis pas sûr que ce soit la mathématique en soi qui soit associée à quelque chose d'horrible, disons que c'est plutôt considéré comme quelque chose de puissant. hein, le thème des équations mathématiques pour remonter le temps, le thème d'accéder à des nouvelles dimensions, tout ça on le retrouve, y compris les thèmes géométriques, le pouvoir géométrique, ça va être le tracer les bonnes figures géométriques pour tel ou tel truc. Là, vous me faites penser à une petite nouvelle de Frederick Brown, dans laquelle l'étudiant en mathématiques, il est désespéré parce que il va pas réussir à réussir son examen. Alors il fait un pacte avec le démon, hein, il invoque, il prend tout ce qu'il faut, elle est nulle en géométrie, c'est un examen de géométrie qui arrive bientôt, et puis il prend toutes les précautions pour invoquer le démon et tout, et puis quand le démon apparaît, il lui expose son problème, à savoir qu'il est vraiment nul en géométrie, le démon dit « oui, oui, j'ai remarqué », et se dirige vers lui parce qu'au lieu du pentagramme protecteur, il a tracé un hexagone, ou quelque chose comme ça, et donc il le saisit et puis il l'emporte en enfer. Voilà un exemple qui est assez réjouissant, qui montre bien que quand on est mauvais en géométrie, ça ne paye pas.
Il faut être bon en géométrie. Que, voilà. Conclusion, bosser la géométrie. Bon, merci Cédric. Je crois qu'il est une heure passée. On a juste après, en fait, tous les deux, on participe à une table ronde qui est derrière, donc Cédric ne disparaît pas. Merci Cédric d'être prêté à ce jeu de questions. Merci à vous d'être venus si nombreux pour voir quand même quelqu'un qui dégage pas mal en mathématiques et parmi les plus grands mathématiciens de notre temps, certainement, en tout cas les plus connus maintenant. Merci à vous.